France Musique.
France Musique, les grands entretiens, Philippe Cassard.
Je m'appelle Nathalie Dessay, je suis née le 19 avril 1965 à Lyon et je suis chanteuse et comédienne.
Je voudrais qu'on en vienne au début au Met, parce que c'est quand même une de tes scènes lyriques fétiches au niveau international. Début dans Arabella, dans un petit rôle.
Oui, Fia Carmilli, qui est vraiment le rôle idiot par excellence.
Pourquoi idiot ?
Parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt théâtral, là, du coup. Mais c'est un rôle un peu avec des petites coloratures par-ci par-là, donc qui peut être remarqué, disons, voilà.
Zerbinette suit très vite.
Oui.
98.
Ça c'est avec James Levine.
Alors parle-nous de Levine déjà.
C'est un chef extraordinaire qui lui aussi a mal fini. Mais en tout cas en tant que musicien, c'était un musicien merveilleux et pareil l'orchestre sous sa direction et c'était son orchestre. Jouer comme il ne jouait jamais, quoi. C'est-à-dire avec une ductilité, une douceur, des couleurs incroyables.
Zerbinette, c'est aussi le fameux grand air dans le...
15 minutes, oui.
15 minutes. Moi, j'avais vu Gruberova quand j'étais étudiant à Vienne.
Moi, j'ai vu aussi, bien sûr.
Et... quand on te voit à l'opéra dans ces rôles si périlleux, est-ce que tu es dans le contrôle ou est-ce que tu es dans le lâcher-prise ?
Ah non, je ne suis absolument pas dans le lâcher-prise. On est dans le contrôle et dans la jouissance de l'exploit aussi, je dois dire.
Tu as aimé ça ?
Oui, parce que... bon, moi je savais que je pouvais réussir puisque si on le réussit 100 fois... chez soi, il y a des chances qu'on le réussisse à la scène. Mais ça me coûtait quand même... Le trac m'a enlevé beaucoup de plaisir, malgré tout. Et j'ai jamais pu m'en départir véritablement.
Mais ce trac te poursuivait tout le long d'une représentation ?
Oui, on peut dire ça.
Il n'y avait pas un moment donné où...
Il y avait quelques petits moments où je pouvais me laisser griser, disons. Mais ils étaient rares. Parce que c'est quand même tellement dur que on est obligé d'être vraiment très, très, très concentré.
Et pendant toutes ces années-là, on va dire ces 10, 12 années, même un peu plus, 15 ans, est-ce que tu travaillais toute seule ? Est-ce que tu avais des coachs ? Est-ce que tu te reposais aussi sur le travail avec les chefs de chant dans les maisons d'opéra ? Comment ça se passait, ce travail-là ?
Non, tout le travail, on le fait tout seul en amont avec des chefs de chant. On ne le fait pas sur place. Alors sur place, on peut avoir éventuellement un coach d'italien ou d'allemand qui vient corriger certaines choses, mais le gros du travail il a été fait avant.
Donc ça veut dire qu'on paye des cours.
On
paye
des cours des de chant, oui. des séances avec des pianistes. Oui. Ça coûte très très cher d'être un chanteur.
Quand on est loin de son mari, loin de ses enfants, pendant une production qui va durer 2 mois, comment on vit ?
Moi, je louais des appartements dans les villes dans lesquelles j'allais. Alors, il faut dire qu'au début des années 90, c'était pas comme aujourd'hui, où on trouve des Airbnb partout dans le monde très facilement, hein, À l'époque, c'était quand même une tannée d'arriver à se loger correctement.
On disait que Placido Domingo avait beaucoup, beaucoup d'immobilier.
Oui, 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 c'est vrai.
Et qu'à Vienne, notamment. Hein,
oui, crois. Oui, à Vienne, il a 3 ou 4 appartes. À New York, pareil.
Et tu as loué ces appartements?
Une fois.
Est-ce qu'il était bien au moins?
Oui, oui, c'était bien, c'était pas mal. Oui, donc il faut arriver à trouver un appartement près de l'opéra, qui soit suffisamment confortable, parce qu'on est quand même tout seul pendant tout ce temps-là, donc qu'on ait envie d'y retourner les jours où on ne joue pas, par exemple, ou la journée pendant qu'on attend d'aller au théâtre. Enfin bon.
Alors donc tu fais ta cuisine, tu...
Oui, oui, par exemple.
Tu sors.
Moi j'ai beaucoup marché dans les villes. J'aime beaucoup découvrir les villes à pied. Donc, et notamment quand je suis arrivée à New York, j'ai adoré cette ville. Et d'ailleurs, en 2007-2008, j'ai acheté un appartement. J'ai fait comme Domingo, sauf que moi, j'avais qu'un seul appartement à l'étranger. Mais oui, c'est une vie étrange, hein. Une vie de solitude, beaucoup.
Quid des fans?
Je me prête volontiers aux séances de signatures, d'autographes et tout ça, et de photos, machin. Mais je trouve ça toujours un peu étrange.
Pourquoi?
Parce que je trouve que c'est trop. C'est... À la fois, ça fait plaisir que des gens viennent vous dire à la fin qu'ils ont aimé ce que vous avez fait, et à la fois, on se sent comme un objet. Donc j'aime pas beaucoup ça.
Un objet d'admiration ou juste
un objet tout court. C'est-à-dire que je me souviens d'une séance à Vienne, justement, après des contes d'Hoffmann, où les gens se précipitent sur moi à la sortie. Et puis, dès que Placido arrive, alors là, c'est comme si j'existais plus d'un seul coup, parce qu'il y a un objet plus beau, plus brillant, qui arrive derrière moi. Donc là, j'ai vraiment compris, en fait, que c'était pas moi qu'on appréciait. C'était vraiment le statut, en fait. J'avais un statut d'objet, j'allais dire en argent, mais Placido, c'était l'objet en or massif. Voilà.
Et alors, au mi-temps des années 90, à peu près, vient la musique baroque dans ton répertoire, dans les nouveaux rôles, notamment chez Handel, Jules César, Alcina, Mozart, Mithridate avec Rousset, évidemment des collaborations avec le concert d'Astrée, Emmanuel Haim, qui va devenir une de tes proches amies, William Christie aussi. Comment c'est arrivé ça? Est-ce que c'est sollicité par les artistes eux-mêmes ou c'est toi qui veux absolument...
Je ne sais plus comment c'est venu. Je me souviens que j'avais insisté auprès de l'Opéra de Paris pour faire 2 ou 3 rôles dans Les Indes Galantes de Rameau. J'adore la musique de Rameau, donc je voulais vraiment participer à cette production. C'était William Christie et c'était merveilleux.
Lui était merveilleux?
Ouais, l'orchestre, l'ambiance aussi. C'était une production un peu foutraque de Serban, mais c'était vraiment, vraiment très joyeux. Et c'est là que j'ai connu Emmanuel Haim, qui était à cette époque claveciniste dans le Continuo, et qui préparait déjà les chanteurs.
Et les difficultés, elles se situent où dans la musique baroque?
C'est le style, quoi. C'est comment faire les ornementations, par exemple, comment utiliser le vibrato, comment utiliser les appoggiatures.
Est-ce que tu étais sensible au timbre des instruments baroques ?
Ah oui, moi j'ai tout de suite beaucoup aimé les orchestres baroques. J'ai aimé ce côté un peu rugueux, ces couleurs étranges aussi, des cordes ou des instruments anciens en général. Tout ce qu'on pouvait faire en fait au niveau des couleurs et des dynamiques, ça me plaisait beaucoup. Je me souviens dans Alcina, par exemple, quand il y avait des airs avec continuo, notamment, j'essayais de ne pas faire tous les soirs la même chose. J'aimais bien les surprendre et j'aimais bien cette proximité qu'il y avait aussi avec l'orchestre, parce que la fosse est plus haute, on peut se voir, on peut vraiment s'entendre. Et je trouve qu'il y a beaucoup plus de proximité avec les musiciens baroques. On fait plus de musique ensemble qu'avec des orchestres modernes.
Il n'y a pas cette masse orchestrale.
Il n'y a ni la masse, et surtout, les orchestres modernes, on ne les voit même pas. Ils ne nous voient pas, et la plupart du temps, ils ne nous entendent pas. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu'ils suivent le chef, et c'est tout. Et moi, je trouve ça absolument dommage.
France Musique, les grands entretiens de Nathalie Dessay.
Encore un mot, Nathalie, sur quelques rôles qui ont marqué le public, qui t'ont marqué aussi, je pense, La Reine de la Nuit, quand même, Aix-en-Provence.
Ah oui, ça c'était beau.
C'est une super production.
Ah oui, c'était une production de Robert Carsen, absolument magnifique. C'était William Christie à la baguette.
Et c'était aussi une nouvelle Reine de la Nuit, quand même.
Et c'était...
On l'avait jamais chanté comme ça.
Bah, c'est surtout qu'on l'avait jamais joué comme ça, c'est-à-dire une reine qui était presque presque la sœur de Pamina, en fait. On était habillées toutes les deux pareilles, avec Pamina, un peu dans une robe à la Sissi, avec des cheveux très 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 longs. Oh, c'était super beau.
Oui, mais toi, ce que tu en faisais aussi de cette Reine de la Nuit? C'est pas Bill Christie qui te l'a dit, c'est toi qui as trouvé, qui a eu l'instinct.
À la fois
colère et pleine d'humanité, non ?
Oui, enfin, j'ai toujours trouvé un peu, j'allais dire tendancieux, faut pas exagérer, mais cette histoire de la flûte enchantée, je l'aime pas beaucoup, en fait. Je la trouve trop schématique, et je trouve finalement que Zarastro est tout aussi monstrueux que la Reine de la Nuit. Et il n'y a qu'une seule mise en scène dans laquelle c'était vraiment, vraiment expliqué comme ça et joué comme ça, qui était la mise en scène de Marelli à Vienne.
À laquelle tu avais participé ?
Oui, à laquelle j'avais participé. Ouais. Mais en tout cas, j'ai un souvenir ébloui de cette Reine de la Nuit d'Aix-en-Provence dans la nuit d'été, comme ça. Et surtout, c'était 94 et 95. Et en 95, j'étais enceinte, et bien enceinte, de mon fils, Tom, qui est né en septembre.
Donc, 2 mois avant, tu chantais.
Ouais, 2-3 mois avant, j'étais sur scène en train de chanter.
Et entre les deux airs, quelle sensation !
Je me souviens que c'était quand même assez fatigant, il faisait chaud. Et entre les deux airs, j'allais m'allonger sur une civière.
Et le rapport au metteur en scène, tu attends qu'on te dise, qu'on te propose, qu'on te mette en scène, comme ça a été plus tard,
Oui, j'aime qu'on me propose un terrain de jeu, en fait.
Tu en as, toi, un terrain de jeu au départ, quand tu abordes un rôle ?
Non, moi, justement, j'ai aucun a priori, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Et tout va dépendre déjà du décor, des accessoires, du costume, de... Si le décor est absolument nu, par exemple, bah, c'est sûr que ça sera plus difficile. Alors que s'il y a un parcours physique, par exemple, à exécuter dans un décor, c'est tout autre chose.
Comme dans Lucia, par exemple.
Mais comme dans la Lucia de Serban, que j'avais absolument adoré quand je l'avais vu avec Joe Anderson, 12 ans avant de le faire moi-même, sans me douter qu'un jour, sur cette même scène, c'est moi qui chanterai le rôle. C'est ça qui est génial.
Redis un peu pour les auditeurs de France Musique, en quoi ça consistait cette mise en scène et ce rôle.
C'était une mise en scène qui était comme dans une arène, mais qui se passait à la fois dans une garnison, on va dire, avec un hôpital. Et donc cette fille est complètement objetisée par les hommes qui sont autour d'elle. Et c'est précisément l'histoire de Lucia. Et c'est ça qui est beau. On n'avait pas tout le côté folklorique de la lande écossaise avec les tartans ridicules. On avait l'univers mental, en fait, de Lucia.
Mais alors, quand Serban t'en a parlé, ça t'a éclairé, ça t'a obligé...
Mais c'est surtout le décor. Enfin, moi, j'avais vu la production, donc j'avais vraiment, vraiment, vraiment adoré, à tel point que je me souviens, après la première partie... Quand elle est forcée de se marier et de signer le contrat et qu'on la force à s'habiller en mariée, qu'on la maquille de force outrageusement et outrancièrement, moi j'avais eu des hoquets d'émotions, des sanglots m'étaient venus, quoi, parce que c'était vraiment très impressionnant.
Et quand on est soi-même le personnage, à le chanter.
Ah, bah c'est fabuleux. C'est fabuleux parce que. Parce que tout va bien, quoi. Tout va bien. Tout va ensemble. Tout va dans le même sens. Quand il y a une mise en scène qui a du sens et qui est forte, et ça vous porte forcément pour le chant, et ça vous amène ailleurs. Et ça amène les spectateurs ailleurs aussi.
Et d'autres spectacles, par exemple le Rossignol dont tu parlais
tout
à l'heure.
Ah oui, il y avait le Rossignol
de qui
Nordet, dirigé par Boulez, et qui était couplé avec le Pierrot Lunaire, que chantait Christine Schaeffer, qui est aussi une chanteuse que j'aime énormément. Il y a eu quelques inoubliables spectacles. Il y a eu, des spectacles avec Robert Carsens, à plusieurs, parce que ce qu'il fait, c'est toujours très très beau. Mais il y en a eu plein. Il y a eu L'Orphée aux Enfers de Laurent Pelly. Bon, mais Laurent Pelly, on a fait
et la
plein.
Fille du régiment.
La fille du régiment. Traviata, enfin, Péléas, on a fait beaucoup de choses avec Laurent et on continue d'ailleurs.
Et L'Orphée aux Enfers, où tu as chanté avec Laurent?
Oui, c'était Laurent Pelly. C'était sa première mise en scène lyrique.
Mais avec Laurent Naouri?
Avec Laurent Naouri aussi, dans le rôle de Jupiter,
déguisé
en mouche. Et ça, c'était Minkowski. C'est la première rencontre avec Minkowski.
C'est une belle rencontre.
Oh, bah, c'était merveilleux parce que c'était une équipe géniale.
C'est des années douloureuses pour toi.
Oui, même à partir de 2001.
Les cordes vocales qui nécessitent...
Ouais. Il y a deux pathologies différentes. Une sur chaque corde, mais on ne le sait pas à l'époque. Donc on va commencer à opérer une corde en microchirurgie en 2002. Et puis, normalement, quand c'est comme ça, l'autre corde se guérit toute seule. Et ça ne s'est pas passé comme ça. L'autre corde avait aussi quelque chose. Donc on a dû y revenir 2 ans plus tard.
Comment ça s'est manifesté? Comment tu l'as ressenti les premières fois?
Petit à petit, j'ai eu une difficulté. La voix n'était plus claire. C'est-à-dire que même quand je parlais, je sentais ma voix. Et ça, c'est pas normal. Comme s'il y avait en permanence un petit truc qui fait qu'on la sent et que c'est difficile de produire un son. Tout petit, tout fin. Or, on a besoin de produire des sons extrêmement fins. Et on a besoin d'un accolement des cordes absolument parfait. Donc, au début, je me disais, bon, je suis fatiguée, je vais me reposer. Et puis, malgré le repos, ça ne passait pas.
Et tu annulais des représentations?
Oui. Oui, oui. Et après, on a commencé à faire de la rééducation. Ça ne passait toujours pas.
Tu chantais beaucoup à cette époque?
Oui, je chantais beaucoup.
Et des rôles très différents?
Oui, on peut dire ça. Mais aussi, mes enfants étaient petits. Et je pense que je culpabilisais beaucoup de ne pas être là. Donc, en fait, je pense que la part psychologique a joué un grand rôle. C'est-à-dire que je me suis fabriqué une bonne excuse pour rester chez moi.
Parce que quand tu revenais chez toi, entre deux productions, il s'écoulait combien de temps?
15 jours.
15 jours?
Oui, parfois. Parfois une semaine.
Et tes enfants te reconnaissaient?
Oui, ils ont eu l'élégance de me reconnaître. Ce qui, parfois, je me souviens d'une anecdote comme ça, qui était arrivée à Christelle Ludwig. Quand un jour, elle est rentrée chez elle et son fils la voit. Et alors, elle lui dit « Ah ben alors, mon chouchou, tu ne me reconnais pas, c'est maman !» Et lui, il y a une photo d'elle à côté de son lit et il dit « Non, maman, elle est là. » Et il montre la photo. Ah, moi, je trouve ça terrible.
Ça ne t'est jamais arrivé?
Non. Non. Non, mais mon fils m'a posé la question une fois. « Qu'est-ce que tu préfères, maman, entre ton travail et nous ?» Et j'aurais dû répondre tout de suite, bien sûr, que c'était eux. Mais j'ai pas pu répondre ça tout de suite.
Et il l'a senti?
Je sais pas, en tout cas, j'ai corrigé le tir très vite, mais je regrette d'avoir répondu que les deux étaient nécessaires à ma survie.
Et Laurent était plus à la maison que toi, ou il était déjà sur les routes?
Déjà sur les routes, un tout petit peu moins que moi, mais quand même, il était aussi pas mal sur les routes. Mmh. Mais on essayait de s'arranger pour pas être tous les deux absents.
Mais alors, quand tu revenais, c'était maman gâteau, maman...
Non, j'étais là pour foutre le... Non, pour remettre de l'ordre. Oui, oui.
Parce
moi
que
j'étais
un peu
bad
maniaque.
Cop. Oui, je suis bad cop, moi.
Ah oui?
Oui.
Et Laurent, beaucoup
c'est
plus papapoule?
Oui.
Ah oui. Et tu chantais des chansons à tes enfants?
Assez peu. Je leur lisais des histoires, mais pas trop non plus. En fait, tout ce cérémonial du coucher, au lieu d'en profiter, je l'expédiais. Je me sentais assez mal à l'aise, en fait, avec mes enfants, petits. Je savais pas trop quoi en faire. Je me sentais pas un instinct maternel
et pourtant, tu les as voulu.
Débordant, et pourtant je les ai voulu, et pourtant je culpabilisais de ne pas être là. Donc c'est très bizarre. Mais j'étais beaucoup plus à l'aise avec eux quand ils étaient ados, en fait.
Oui, mais pourtant ils sont pas devenus psychotiques, tes enfants.
Ils sont ni devenus psychotiques, ni allergiques à la musique. Hein. Donc c'est déjà ça.
Ils sont venus assez tard à la musique.
Oui, on les a forcés à faire de la musique toute leur enfance. Ils nous en ont bien voulu pendant des années. Et puis, quand il s'est agi de choisir un métier, c'est quand même ça qu'ils ont choisi. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas tout raté.
C'est un motif de fierté, quand même.
Ah oui. Tiens.
On parle de toi,
justement.
Tom.
Tom, on parle de toi.
La fin de Regret, une mélodie de Claude Debussy, chantée par Nathalie Dessay, que j'accompagne.
Ainsi se referme ce troisième épisode des Grands Entretiens de Nathalie Dessay, une série proposée par Philippe Cassard et réalisée par Françoise Cordet. Le podcast est disponible sur l'appli Radio France.
À réécouter sur francemusique.fr.